haut pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, ce soir, notre émission sera en direct, non pas au téléphone, comme elle est bien souvent faite. Non, c'est en direct, puisque nous avons deux invités. Alain, du comité, du collectif Afrine Reims. Donc, on va vous parler du Rojava, c'est-à-dire des Kurdes du côté syrien. Et puis, Ferhat, qui représente la communauté kurde rémoise. Alors, on va peut-être... Vas-y.
Ben oui, déjà bonjour, merci à vous d'être venu. Vous venez pour une initiative qui aura lieu vendredi soir à 20h, on en avait parlé la semaine dernière, avec d'une part la diffusion d'un petit documentaire, c'est ça, d'une vingtaine de minutes, et puis également une discussion autour à la fois de sujets multiples, de ce qui se passe au Kurdistan, et puis de la situation aujourd'hui, puis de tout simplement de la situation et de l'histoire du peuple kurde, puisque c'est quelque chose dont on se rend compte que les gens connaissent fort peu. Alors déjà Alain, est-ce que tu peux nous expliquer les raisons et les objectifs de la naissance de ce collectif Afrine et d'où vient ce nom d'ailleurs?
Alors Afrine, ça vient du nom d'une ville de Syrie du Nord qui était contrôlée par les forces démocratiques syriennes et qui a été attaquée au mois de janvier 2018 par l'armée turque sans aucune raison valable évidemment et qui fait partie d'un espace géographique plus vaste, le canton Afrine. Et lorsque cette attaque des troupes d'Erdogan s'est produite, eh bien, on a été quelques-uns à avoir une sorte de mouvement d'indignation par rapport à l'indifférence qui existait un petit peu dans la population française par rapport à cet événement. Et on a décidé de réagir et donc on a créé un collectif. Ce collectif, c'est un collectif donc qui soutient la cause kurde et la cause des forces démocratiques syriennes en général pour rappeler... entre autres, eh bien, à quel point ces forces ont été importantes dans la lutte contre l'État islamique, notamment lors de la bataille de Kobané. Mais j'aurai peut-être l'occasion de reparler de Kobané tout à l'heure. Donc ce collectif, eh bien, il regroupe des organisations, des associations, des individus. Alors je vais citer les organisations. On a le Nouveau Parti Anticapitaliste, l'Organisation Communiste Libertaire, la France Insoumise, on a le soutien de Génération, on a également le soutien de Solidaires, des Alévis de Reims, et bien sûr, on travaille en concertation étroite avec les Kurdes de Reims, dont l'un des représentants est ici ce soir.
Ouais, on peut dire que Afrine, c'était le premier moment... Après l'unité de façade contre l'État islamique et contre le régime syrien, des nouveaux affrontements impérialistes sur le sol de la Syrie, puisque Afrine, c'est en Syrie, c'était une ville qui était tenue, le canton était tenu par les forces démocratiques kurdes, et évidemment, Erdogan ne souhaitait pas, on va employer un euphémisme, que s'établisse la potentialité d'une présence kurde aussi près de la Turquie. Aujourd'hui, quelle est la situation à Afrine, puisqu'on a parlé quasiment de nettoyage ethnique, de crimes de guerre et d'une reprise très très violente, à la fois par les forces turques, je dirais régulières, et d'autre part une adjonction de, on va appeler ça comment, des mercenaires islamistes, à moins que vous ayez un autre mot. En tous les cas, il y a eu un recyclage de certaines forces islamistes qui auparavant étaient décrétées terroristes, qui là ont servi de supplétifs pour l'armée turque pour reprendre le contrôle d'Afrine. Quelle est la situation aujourd'hui à Afrine? Je sais qu'il y a toujours des attaques de la part des forces kurdes qu'on appelle YPG, YPG.
Alors tout à fait. Je reviens quand même un tout petit peu sur le contexte de janvier. Tu as parlé des impérialismes et de leur rôle. En janvier 2018, l'État islamique a été quasiment vaincu, quasiment éradiqué. Et donc, il n'y a plus d'inquiétude dans les opinions occidentales par rapport à ce phénomène, puisque les attentats sont moins nombreux. Et donc, il y a eu un accord parfaitement scandaleux entre toutes les grandes puissances qui ont laissé faire ou qui ont donné leur feu vert à l'attaque d'Erdogan. Et quand j'ai dit l'armée turque, effectivement, tu as eu raison de le dire, une bonne partie des troupes étaient fournies par des djihadistes, il n'y a pas d'autre terme, des djihadistes qui ont été recyclés par Erdogan, ce qui n'est pas étonnant puisque l'on sait que au moment de la bataille de Kobané, il y a 4 ans, quand l'État islamique était très fort, la frontière avec la Turquie était à ce moment-là très poreuse, le régime d'Erdogan a fourni d'une certaine manière une logistique et un appui au moins indirect aux djihadistes. Alors pour revenir à la deuxième partie de ta question, Afrine est tombée le 18 mars, toute l'enclave est aux mains des forces turques et djihadistes, et tu as eu raison de le préciser, il y a eu un véritable nettoyage ethnique, et c'est un terme qui est tout à fait adéquat à la situation, toute une série d'exactions, de viols, de pillages, et la population d'Afrine vit dans la terreur, et ce qui n'empêche pas effectivement les forces démocratiques syriennes de procéder à des attaques de l'armée d'occupation, puisque c'est le terme qui s'impose pour ces troupes. Alors aujourd'hui, bon, Afrine a été perdu. Aujourd'hui, notre inquiétude, elle est plus sur le reste du territoire du Rojava, qui fait, comme je l'ai dit, frontière avec la Turquie, et où, depuis un sommet qui s'est tenu à Istanbul à la fin octobre, eh bien, Erdogan semble avoir le feu vert pour attaquer le Rojava libre. Et déjà, il y a eu des bombardements, des tirs d'artillerie, et les déclarations d'Erdogan lui-même sont absolument claires et limpides. Il a dit, on va en finir avec le Rojava, avec les Kurdes, et comme il joue sur le nationalisme de la majorité des Turcs, eh bien, c'est une voie qu'il peut emprunter très rapidement. Et là encore, il est à peu près certain que les grandes puissances, États-Unis, Russie, etc., lui laisseront le feu vert. Donc, nous sommes extrêmement inquiets en ce moment par rapport au devenir du Rojava et des menaces que font peser sur lui Erdogan et les djihadistes.
Alors, il faut rappeler que c'est... Tu voulais rajouter quelque chose, Ferhat? Non?
Vas-y.
Mais ce que je voulais signaler, c'était que c'était une zone qui est depuis toujours un champ de bataille des forces impérialistes par force interposée, puisque il y a des revendications anciennes, hein, notamment pour la Turquie, sur la Syrie, du Sandjak d'Alexandrette. Petite incursion, que la route de Damas et que là, cette ville d'Afrine, comme tu décrivais, elle est sur la route d'Alep, donc elle était extrêmement importante.
En l'occurrence, si je peux me permettre,
je t'en prie.
C'est que Afrine, contrairement aux autres régions de Syrie et du Rojava, n'a jamais été mêlée à la guerre. Afrine n'a jamais été mêlée à la guerre. Afrine, ça a été une terre d'asile pour tous les Syriens. Afrine regroupait des centaines de milliers de personnes. Jamais une bombe, depuis le début des conflits en Syrie, n'avait touché Afrine. Ce qui s'est passé avec l'invasion de la Turquie d'Afrine, c'est que déjà, le seul endroit où on pouvait se sentir en sécurité en Syrie n'était plus. Il s'est passé et 150, plus de 150 000 personnes ont fui Afrine et ont erré à travers le Rojava. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est la suivante. Pourquoi attaquer une ville qui n'était jusqu'alors pas la cible de conflits, qui, bien au contraire, regroupait tous les peuples, non pas simplement les Kurdes, mais tous les peuples de Syrie? La question est la suivante. Pourquoi Afrin est-il attaqué alors qu'il a mis en place un système fédéraliste, communal, où chacun y retrouvait son compte? La réponse est simple. Un système qui dérange à majorité kurde, où tout le monde y trouve son compte. Aujourd'hui, que se passe-t-il? L'armée turque, appuyée par ses djihadistes. Aujourd'hui, Afrin doit, selon eux, devenir une ville turque. Et ceci passe par quoi? Par la création d'écoles turques. Par la mise en place d'administrations turques. Je parle de services publics, par exemple, tels que la poste, les journaux ou des choses comme ça, qui sont turcs. On a des préfets turcs à Afrin aujourd'hui. On force les enfants à parler turc. On leur apprend le turc. Aujourd'hui, on refuse quelle forme qu'il soit de structure kurde. On refuse que le kurde soit parlé. On refuse que le kurde soit vécu. On refuse que le kurde, tout simplement, vive.
Ouais, c'est une annexion de fait d'un bout de la Syrie
c'est le colonialisme. Erdogan,
Exactement. Et en plus, ça, comme tu dis, ça importe la guerre dans une partie où il y avait des expérimentations de vie sociale et où ça semblait, enfin, c'est pas que ça semblait, ça se passait plutôt bien, quoi. Et alors, on a vu en plus que à l'intérieur du champ mondial, Erdogan peut faire ses petites saloperies. Enfin, Erdogan, l'État turc. Incarné bien sûr. Par cette personne d'Erdogan qui est la caricature de lui-même, mais bon, il y a aussi, vous dire par là, faut pas trop personnaliser quoi, hein, l'État turc. Si un jour Erdogan part, il y aura encore l'État turc quand même, hein, et les Kurdes sont largement pour se rappeler que c'est pas forcément une personne. Erdogan était donc en France aujourd'hui, d'ailleurs normalement. En ce moment, il y a une manifestation à Strasbourg, non? Je dis pas de bêtises.
Oui, exactement.
Ouais, à l'initiative des Kurdes, à la fois pour protester contre l'avenue de cette personne qui, quand même, représente un État dans lequel on est condamné. Alors là, je lisais encore, c'est tous les jours que ça tombe, hein, évidemment, hein, la liberté de la presse. Alors, on voit que quand c'est un journaliste du Washington Post, Emira, il y a des levées de boucliers qui se lèvent et on est pratiquement en train de provoquer un incident diplomatique, mais tous les jours il y a des journalistes turcs, kurdes, qui sont emprisonnés, et ça crée pas forcément la même émotion. Là je vois, il y a une jeune fille qui s'appelle Seren Koban, coprésidente de la Fédération des associations des jeunes socialistes de Turquie, qui a été condamnée à 20 mois de prison avec sursis. Pour un délit d'opinion, clairement, puisqu'elle a donné une interview sur la situation Afrin et sur l'invasion d'Afrin. Donc elle a donné juste, elle s'est juste exprimée sur ça, et donc elle a été condamnée à 20 mois de prison avec sursis. Bon, ça c'est la réalité, hein, de toute façon, qui a été notamment décrite largement. Donc voilà, la France accueille dans un... Comment ça s'appelle? Un forum mondial pour la paix. C'est tellement hypocrite que si, c'est ça.
Forum pour la paix, oui.
C'est ça. Et donc, bon, il y avait des manifestations. On y reviendra en plus parce qu'il y a eu d'autres manifestations. Il y a eu des interpellations. Comment vous interprétez ça au collectif et toi-même, Alain, par rapport à la situation internationale? Parce que il y a quand même ce type-là, Erdogan et cet État turc, qui joue un peu en disant, bon, d'un côté, je prends les migrants. Alors, visiblement, il a des informations sur la manière dont ce journaliste saoudien a été tué. Donc, il les monnaie aussi. Mais en même temps, j'allais dire, dans mon pré carré à moi, le bassin et l'ex-empire ottoman, vous me laissez faire ce que vous voulez, et une fois de plus, quelque part, une fois de plus, les Kurdes qui ont été les défenseurs d'une solution progressiste, en tous les cas humaine et plutôt, oui, plutôt progressiste, pendant tout le conflit, vont se retrouver tout seuls, quoi. Enfin, ils sont déjà tout seuls, mais ils risquent de se retrouver encore plus isolés, quoi.
Bien malheureusement, tu as raison, hein, sur le fond, hein, c'est-à-dire que Erdogan, parvient à se faire inviter à un forum pour la paix, ce qui est vraiment quelque chose d'invraisemblable. Quoi. C'est quelqu'un qui a attaqué sans raison Afrin, qui emprisonne les journalistes, qui révoque les fonctionnaires, qui réprime les députés du HDP, un parti d'opposition. Bon, c'est vraiment quelque chose d'écœurant, il n'y a pas d'autre mot. Et il y a responsabilité des grandes puissances. C'est clair que la Russie avait donné son feu vert au moment d'Afrin et qu'elle est prête à le donner de nouveau puisque les relations avec Poutine se sont réchauffées. Mais je voudrais insister sur les responsabilités de l'État français parce qu'on a pu se faire quelques illusions sur la position de Macron pendant quelques temps. Il avait même reçu des représentants du Rojava, je crois que c'était en février ou au début du printemps. Et puis en fait, c'est le même homme qui, lors du sommet d'Istanbul, tape sur l'épaule à Erdogan, ne lui dit rien, ne le prévient pas qu'attaquer les Kurdes serait grave, et qu'il le reçoit, qu'il lui déploie le tapis rouge lors de la commémoration du 11 novembre, et puis lors de ce pseudo-forum pour la paix. Donc là, il y a vraiment un double jeu, une hypocrisie assez incroyable. Et je voudrais dire aussi quelque chose qui me choque personnellement, c'est qu'il y a un silence médiatique absolument assourdissant. C'est-à-dire qu'on parlait des Kurdes il y a 4 ans, lorsqu'ils livraient la bataille contre l'État islamique à Kobané. Là, ils avaient la une des journaux, des journaux télé. Et aujourd'hui, eh bien, il est très difficile de trouver des informations sur ce qui se passe là-bas, ce qui se passe au Rojava. Et là, je vous indique deux sites qui sont très bien, c'est Kurdistan féminin et Rojinfo, on trouve ça aussi sur Facebook. Mais sinon, les grands journaux n'en parlent pas, il y a un blackout. Et donc ça, c'est également très mauvais signe. C'est-à-dire qu'Erdogan compte sur l'indifférence des peuples par rapport au massacre possible qui peut avoir lieu au Rojava dans les semaines qui viennent. Donc c'est à nous, justement, notre rôle en tant que collectif, c'est à notre échelle d'impulser la solidarité, de faire connaître ce qui se passe au Rojava. Et tu as parlé de la réunion du vendredi 16. C'est à cet effet qu'elle se déroule. Mais je crois que nous ne sommes pas encore assez nombreux au collectif. Nous devrions être plusieurs dizaines. Je crois que ça, ce qui se passe au Rojava interpelle les gens de gauche, d'extrême gauche, les syndicalistes, etc. Bon, parce que ce qui se joue là-bas, c'est une valeur qui est aujourd'hui un petit peu laissée de côté, c'est ce qu'on appelle l'internationalisme. Et à une époque où le nationalisme, la xénophobie progressent, c'est pas simplement les dénoncer en termes moraux, ces gens-là qu'il faut faire, mais c'est leur opposer la solidarité internationaliste. Et c'est un peu le sens de notre action.
Pour ajouter au propos d'Alain, il parlait du blackout médiatique. Il est d'autant plus frappant qu'Erdogan a la main sur les médias en France. Il faisait allusion à Kurdistan au féminin ou Rojinfo qui ont été inaccessibles hier, toute la journée. Comme par hasard, jour de la venue de M. Erdogan à Paris. J'ai plusieurs exemples comme ça où des Français d'origine kurde publient sur Facebook, par exemple, ou sur différents réseaux sociaux, et arrive à se faire arrêter dès lors qu'il passe la frontière turque. J'ai des exemples par dizaines encore comme ça, qui sont actuellement emprisonnés en Turquie pour avoir publié sur Facebook. Et aujourd'hui, c'est grave parce que on se dit que en France, on n'arrive pas à exprimer nos opinions parce qu'on a quelque chose de plus grave qui pourrait nous attendre derrière.
Oui, bien sûr. Et puis on se souvient qu'il y avait une couverture du Point, hein, avec un point d'interrogation Erdogan dictateur, et qu'il y avait des fascistes turcs. Alors là, on l'emploie à bon escient, hein, le terme, hein, parce que c'est vraiment des fascistes turcs qui étaient intervenus à la fois au Point, d'une part, faire des manifestations, et puis d'autre part, sur les kiosques et les colonnes pour démonter. Imagine ce que ça aurait donné si nous on avait fait ça sur, enfin, bon, peu importe. Mais justement, ici, c'est aussi un moyen de contre-information, et vraiment, on invite les gens à se rendre vendredi pour aller chercher toute l'information directement. Les Kurdes seront là, autant leur demander. Le peuple kurde, Comment t'as exposé ta 10 minutes pour nous parler de son histoire et du peuple kurde, si tu peux connaître l'histoire. Non, mais bon, allons-y, parce que c'est quand même quelque chose qui traverse l'histoire, quoi, de la Mésopotamie.
Les Kurdes. Ça. Ouais. Les Kurdes. Alors, brièvement, les Kurdes, le peuple kurde, c'est le peuple originaire de la Mésopotamie. Il a toujours été là-bas. Et il a toujours vécu là-bas. D'abord, c'était un peuple nomade, puis s'est sédentarisé naturellement avec l'évolution. Mais malheureusement, le peuple kurde, il a toujours, au sein de la Mésopotamie, été victime de différentes guerres, que ce soit entre les Perses et les Ottomans, mmh. ou plus récemment avec les différentes guerres mondiales. 1629, les accords de Kasri-Shirin qui parcellisent le Kurdistan en deux, en donnant une moitié aux Perses et une moitié à l'Empire ottoman. Ensuite, on en arrivait jusqu'au traité de Sèvres. Et le traité de Sèvres, alors si je ne m'abuse, c'était son article 27-21 ou quelque chose comme ça, où on accordait une autonomie aux Kurdes à travers trois régions. Mais un fervent mouvement kémaliste est apparu et a refusé de signer ce traité de Sèvres. Et ce qui a mené à Lausanne. Et à Lausanne, le traité de Lausanne, qui prendra fin d'ailleurs en 23, je crois. C'est ça, hein, c'est 100 ans.
Ouais, 100 ans.
Qui prendra fin en 23 et qui a parcellisé, qui a morcelé, qui a coupé le Kurdistan en quatre, en y annexant une partie à l'Iran, une partie à l'Irak, une partie à la Syrie et la plus grosse partie à la Turquie. Il y a eu différents mouvements depuis Lausanne, des mouvements d'indépendance, des mouvements de rébellion. On a eu, c'est parti d'abord de rébellions de tribus, notamment dans la région d'Agri. Mmh. Agri, c'est une région qui est vraiment au nord du Kurdistan turc, à la frontière iranienne, avec le mouvement Djalali, par exemple. On est au début du XXe siècle. Et avec ça, ça a été la genèse de plusieurs mouvements, de plusieurs soulèvements populaires, et dont un des plus connus dans les années 40 est le mouvement de Sher Saïd, et qui a mené à l'extermination des Kurdes carrément. Qui a mené au bombardement de la région de Dersim, par exemple, ouais. Par Sabiha Gökçen, qui était directement commandité par Mustafa Kemal Atatürk à l'époque. Et le mouvement le plus concret a été vraiment la fondation du PKK le 27 novembre 78 dans la région de Fis, à Diyarbakir. Mouvement créé par quatre personnes initialement, quatre jeunes étudiants, à peine la vingtaine, issus des sciences politiques. On appellerait ça Sciences Po aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Des sciences politiques d'Ankara et à travers la personne donc d'Abdullah Öcalan. Et c'était différentes actions au début très pacifistes, distribution de tracts, des manifs, des choses comme ça. Et il arrive un moment où ça ne suffit plus et la répression est de plus en plus dure. On parle de plusieurs milliers de villages brûlés. On parle de 17 000 disparus sans qu'on puisse savoir comment. Donc, tout ça, ça mène au début de la lutte armée en 84. Le 15 août 84, avec la première attaque, si je peux dire, du Parti des travailleurs du Kurdistan dans la région de Cizre à Eru, notamment. C'était une attaque conjointe de plusieurs commissariats. Ce qu'il faut savoir, et ce qu'on ne dit pas forcément, parce qu'on a tendance à criminaliser le Parti des Travailleurs du Kurdistan, là où le Parti des Travailleurs du Kurdistan n'est simplement qu'un mouvement de libération du peuple. Le Parti des Travailleurs du Kurdistan n'a jamais attaqué un civil. En temps de guerre, c'est l'État. En la personne de l'État, on voit l'armée ou des choses comme ça.
Policiers.
Voilà. Mais jamais un civil n'a été pris pour cible. Et donc, on a passé le Parti à travers du Kurdistan a passé des périodes très sombres à partir des années 90, où ça a vraiment été les années les plus sanguinaires, avec des coalitions islamo-fascistes. Là, pour le coup, c'était vraiment des fascistes et des islamiques qui étaient au pouvoir ensemble, et ça a mené à des choses très, très, très compliquées au Kurdistan.
Ça représente combien de personnes, les Kurdes, à la fois, je dirais, là-haut et dans le monde? Parce que il y a toujours, donc, malgré le fait que tu l'as dit, il y a eu de multiples fractionnements et il y a des différences, évidemment. Les Kurdistan du Irakien ne sont pas les mêmes. Il y a une unité linguistique, une unité culturelle. À l'intérieur de cette unité de ce peuple, il y a aussi des traditions et des cultures religieuses. Il y a même des gens qui sont pas religieux du tout, faut le dire, quand même, qui sont spécifiques. Mais bon, il y a ça, c'est quoi, 130 millions de personnes dans le monde, le Kurdistan?
Non, j'irai pas jusque-là. Mais on va parler d'une cinquantaine de millions, dont la plus grande majorité se situe en Turquie. Après, c'est des chiffres non officiels, hein, ouais. Encore une fois, mais en France, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en France, on peut parler de presque 500 000 personnes, 500 000 Kurdes en France, et plus d'un million en Allemagne.
Ouais, et combien de locuteurs tu parles, tu connais le nom de chiffre, c'est-à-dire combien de personnes issues de l'immigration ou de la communauté kurde, notamment en France par exemple, maîtrisent la langue?
La langue kurde, pardon.
Kurde,
oui. On peut parler 95%.
D'accord.
95% des Kurdes vivant en France maîtrisent le kurde parfaitement.
Je te pose la question parce que dans une communauté ou notamment dans une diaspora et ou dans des minorités qui sont opprimées par des états centraux, la question de la langue et donc de la culture, elle est vachement importante parce qu'elle fait vivre cette culture-là et en plus elle mobilise les jeunes qui n'ont pas forcément tout le background de la lutte quand ils sont en deuxième ou en troisième génération. C'est toujours quelque chose qui est pas facile, à la fois de vivre en héritage, mais d'être à la hauteur de cet héritage. Mais la question de cette langue-là, elle permet aux jeunes et aux gens, justement, de se poser des questions par rapport à ce qu'ils sont et par rapport à leur
culture. Bien sûr. Et ça entre dans le cadre des associations CDKF, donc des centres démocratiques kurdes en France, dont celle de Reims, dont je fais partie, qui vise justement à ne pas faire oublier la culture, la langue. La cuisine, vraiment tout ce qui fait du kurde ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Kurdes, ayant la chance d'être en France, en plus, ayant la chance de pouvoir parler leur langue librement, comme ils l'entendent, parce que c'est pas forcément le cas en Turquie, malgré ce qu'on peut entendre, on essaye de faire vivre cette culture, notamment moi qui suis natif de France, par exemple. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec la langue kurde. Mais je suis né pourtant en France, ma langue maternelle est le français, mais je n'ai pourtant pas de... Enfin, si je peux m'exprimer ainsi, hein, ouais, ma langue maternelle est le français. Mais j'ai aucun souci avec la langue kurde.
Ah ouais, oui, c'est super important. Alors, ce que je te propose, c'est ce que je vous propose, puisque on va faire une petite pause musicale et ensuite on viendra plus spécifiquement la situation... en ce moment, notamment du mouvement des Kurdes en Europe et en France en particulier, parce que il se passe des choses. C'est pas seulement, on l'a dit ici, mais on développera après la pause musicale.
Seni saklar vermez hele canım.
Là sur quelque chose qui me tenait à cœur, moi, c'était le fait que, quand on regarde bien Erdogan, mais surtout l'État turc, parce que Erdogan peut effectivement être viré demain, ça sera un autre, mais malheureusement, ça risque d'être un peu pareil, on s'aperçoit que ce qui se passe dans le Rojava, c'est vraiment un type de colonisation de l'État turc qui voudrait bien évidemment récupérer une partie de ce qu'était l'Empire ottoman avant. C'est incroyable, et le nationalisme turc, qui est incroyable aussi, est né de ça. C'est-à-dire que les Turcs sont toujours prisonniers de cette histoire d'Empire ottoman. Et puis ensuite, avec l'idéologie, tu n'as pas parlé tout à l'heure, mais tu pourrais peut-être en parler, du fameux kémalisme.
Oui, oui, le kémalisme c'est un mouvement qui est issu du début de la République en Turquie. On est en 1929, je crois,
c'est ça, ouais, ça.
Avec la proclamation de la République en Turquie. Mustafa Kemal, donc, qui aurait repoussé l'envahisseur, le grand méchant envahisseur, de ses propres moyens. Bien sûr, il était fortement aidé par les Kurdes. Là encore, c'est une grosse bêtise des Kurdes, hein. Les Kurdes naïfs qu'ils sont ont aidé Mustafa Kemal à repousser justement les Occidentaux et à l'époque on leur avait promis mondes et merveilles, bien évidemment, et aujourd'hui c'est pas le cas. Mais pour revenir au colonialisme de l'État turc, oui, on a eu le cas il y a deux ans maintenant dans le sud-est de la Turquie, par exemple, où des régions qui étaient donc à majorité kurde, hein, on parle de la région de Mardin, on parle de la région de Dizre, on parle de la région de Şırnak, on parle de toute cette région du sud-est de la Turquie, par exemple, qui n'était pas du tout pro-gouvernementale, qui était bien au contraire complètement hostile au gouvernement, qui ont été littéralement détruites par les forces turques. On a brûlé des civils par plaisir. On a détruit par plaisir. Plusieurs vidéos ont circulé en cette direction, et c'est des vidéos que eux-mêmes postaient. Et on a eu le cas ensuite, par la suite, avec Afrin, encore une fois. Là où Afrin, aujourd'hui, c'est un mouvement purement colonisateur. Purement colonisateur. Aujourd'hui, que s'est-il passé à Afrin ? Ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde est forcé à vivre turc.
Ouais. Enfin, est-ce que tu expliquais avec les instituteurs, les fonctionnaires?
Exactement.
Et puis...
on incite le monde à vivre turc. Aujourd'hui, c'est simple. On a des petits textes en Turquie qu'on fait réciter aux enfants à l'école, par exemple. Et il est marrant, ce texte. Je dis il est marrant, c'est ironique, hein, mais on fait dire aux enfants à l'école, je suis turc, je suis brave, je suis travailleur. Et ça commence comme ça, mais c'est littéralement, ça commence comme ça. Ça vous montre un peu l'idée de puissance qui pourrait avoir du turc, même si on dit fort comme un turc. Faut pas... on va peut-être pas de le prendre au premier sens du terme. Mais je veux dire, aujourd'hui, on en est là. On est dans une politique d'assimilation. On assimile d'abord au sein de ses frontières, ensuite,
on essaie de grandir.
Voilà.
Mais de toute façon, dans la construction de l'État moderne et du nouveau, ce qu'on a appelé sultanat aujourd'hui, la transformation du régime turc en un régime présidentiel avec les différentes modifications de la constitution qui ont lieu, l'idéologie et l'idéologie nationaliste jouent toujours un super rôle, un rôle très très important et encore plus important. Et malheureusement, les Kurdes qui apportent une voix dissonante, on n'est même pas en train de dire... c'est bien, mais une voix dissonante ont vocation à se faire éclater. Et en plus, quand il y a des crises et quand ça va pas, c'est toujours bien de désigner un ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur ou terroriste ou ce que tu veux. Ça permet de faire le lien et de faire l'union. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps de revenir là-dessus parce qu'on aura l'occasion de revenir de toute façon sur cette question, puisque depuis quelques années, à la fois avec, on va dire, sur le terrain pratique et militaire, du Rojava et à la limite sur le terrain politique avec la coalition du HDP et le mouvement qui avait lieu en Turquie à la fois par le HDP, la Convention démocratique des peuples, c'est ça, qui était évidemment majoritairement turc, mais pas seulement, qui agrégeait des forces de gauche également. Il y avait eu un souffle, un peu d'air frais justement.
Majoritairement kurde,
oui, pardon. Il y avait la boulette. Mais il y avait un souffle sur la scène politique, quoi. Il y avait des gens qui se bougeaient, qui étaient jeunes, qui apportaient des choses et qui représentaient quelque part une alternative justement à cette fatalité. D'autoritarisme de l'État turc, bon, parce que ça a donné.
Dérangé.
Aujourd'hui, c'est la Team Demirta, c'est...
Toujours emprisonné depuis plus de deux ans. Le HDP se revendiquait comme étant un parti de Turquie. Ça montre déjà le pas en avant que le HDP voulait non pas regrouper que les Kurdes, mais vraiment tous les peuples. Comme son nom, que tu disais très bien, le Parti démocratique des peuples. Aujourd'hui, le HDP avait mis en place un système de coprésidence avec une femme et un homme, un kurde et une turque. Un kurde et une turque. On avait au sein du. On a des élus au sein du HDP qui sont arméniens, qui sont arabes, assyriens. On a vraiment de tout. Des kurdes, des turcs, naturellement. Mais. Je veux dire, voilà, le HDP a essayé de regrouper vraiment la totalité des peuples qu'il pourrait avoir en Turquie. Et ça a dérangé fortement. Ça a dérangé fortement parce que de plus en plus de monde commençait à donner raison au HDP.
Mais ça dérange aussi au niveau des États comme la Russie, comme les Américains ou comme les Français, hein, ce genre de truc, ce projet, parce que c'est quand même à terme. C'est un projet politique,
évidemment,
de confédéralisme démocratique, comme vous l'appelez d'ailleurs, le communalisme libertaire, comme c'est dit d'ailleurs maintenant par Öcalan, par exemple.
Oui,
c'est effectivement un projet politique qui va à l'encontre, effectivement, des nationalismes en général, quoi.
C'est une réalité aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir le projet de confédéralisme démocratique ou de communalisme libertaire, comme tu disais. Les projets qui a pu avoir au Rojava, donc en Syrie du Nord, et qui a mené justement à l'engagement de centaines d'internationalistes, à travers le monde.
Ouais.
Des centaines d'internationalistes, des Français, des Américains, des Anglais, des Irlandais, des Écossais,
des Belges,
des Australiens, des Néo-Zélandais. On a vraiment eu de tout au sein des YPG, des YPG au Rojava. Et même des YPJ, d'ailleurs.
Et je... oui, moi ce que je voulais signaler aussi par rapport à cette représentation de ce que pouvait être la société turque et la société qui habitait en Turquie, on va dire ça, justement elle explosait la fiction de l'État turc lié à une ethnie, justement une ethnie et à cette espèce de poids qui démontrait bien que à la fois les peuples de Turquie sont divers et variés, et tant mieux, c'est toujours mieux d'être plusieurs et d'avoir des trucs à prendre chez l'un et chez l'autre, à se mélanger, et qu'en plus il y avait derrière ce que tu dis par rapport au confédéralisme démocratique, la proposition d'une organisation politique et d'une organisation sociale qui était justement différente, qui avait été testée dans le Rojava. Je vous laisse 5 minutes, pas plus, enfin 7 minutes, pour nous parler justement de ces moments qui a eu lieu dans le Rojava, Alain, ouais, pour que tu nous dises comment c'est arrivé et qu'est-ce que ça représentait clairement dans le Rojava. Déjà, le Rojava, qu'est-ce que c'est? Et puis nous dire qu'est-ce qui a été expérimenté là-dedans. Ne vous battez pas, hein, allez-y.
Non mais vas-y Alain, je te suis.
D'accord, bon. Alors le Rojava, c'est ce qu'on... je dis ça sous l'œil de Ferhat, il me dira si je me trompe. Ça veut dire l'Ouest, je crois.
L'Ouest, Rojava, c'est ça, oui.
Voilà, c'est la partie ouest du peuple kurde, puisque le peuple kurde est divisé en quatre états.
N'ayons pas peur des mots, c'est l'ouest du Kurdistan.
C'est l'ouest du Kurdistan, voilà, voilà. Alors, ce Rojava dont nous parlons ce soir, il est né de fait au point de vue politique avec le début de la guerre en Syrie. Et donc les troupes d'Hafez el-Assad se sortiraient de cette partie de Syrie du Nord. Et donc ce sont les militants des forces démocratiques syriennes, j'insiste sur le terme, parce que, bien sûr, à majorité kurde, mais qui comportent également d'autres nationalités, d'autres ethnies, hein, qui ont pris le contrôle de la province du Rojava. Alors le Rojava, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas très grand. C'est à peu près aussi grand que la Belgique, pas plus, et c'est très étroit, quoi. C'est assez long, plusieurs centaines de kilomètres, je sais pas, je dirais environ 300 kilomètres, mais par contre c'est très étroit. Et je voudrais insister sur quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est très vulnérable, parce que le Rojava est entouré d'États qui lui sont radicalement hostiles, de par leur projet politique. Alors le projet politique, je voudrais attirer l'attention sur deux points qui sont quand même importants, c'est le seul espace politique au Proche et au Moyen-Orient où il y a une cohabitation entre les différentes confessions religieuses. Et avec les non-croyants, évidemment, parce qu'il y en a. Hein. On trouve des musulmans sunnites, hein, les Kurdes sont en majorité des musulmans sunnites, mais on trouve également des chrétiens, des yézidis. Donc c'est quand même, dans le monde très instable dans lequel on est, où les conflits religieux sont très nombreux, c'est quand même quelque chose de très positif. C'est également un espace dans lequel il y a trois langues officielles. Il y a bien sûr le kurde, mais il y a également le syriaque et, si je ne me trompe, l'araméen. Et au point de vue population, on y trouve également des Turkmènes, des Chaldéens, etc. Donc il y a une grande variété. Alors je suppose que ça va pas sans contradiction, c'est pas évident, mais ça se passe très bien. Et c'est pour ça qu'il y avait évidemment aucune justification à ce que la Turquie intervienne en janvier 2018. Il y en a pas plus aujourd'hui. Et en fait, bon, j'ai développé juste ces deux points, et il y en aurait sans doute d'autres à montrer. Eh bien, c'est parce que ce projet, qui est un projet, n'ayons pas peur des mots, qui est un projet progressiste, démocratique, ce projet, il ne peut que déplaire à tous ceux qui entourent le Rojava, mais également aux grandes puissances, aux dictateurs comme Poutine, etc., parce que c'est pour eux un exemple à ne pas suivre pour leur population. Ça pourrait inspirer leur population. Donc c'est pour ça que cette expérience nous tient à cœur, et que on doit montrer notre solidarité avec ce qui se passe au Rojava, parce que ce serait un peu, si le Rojava venait à être vaincu, ce serait un petit peu de l'espoir de libération des peuples, de l'espoir d'émancipation qui mourrait avec lui. On n'en est pas là, et donc c'est pour ça que on fera tout ce qu'on peut pour développer la solidarité. J'espère avoir été...
Non mais très bien, oui, ce qu'on disait lors de nos interventions en région parisienne au début de la solidarité qu'il y avait avec les Kurdes, c'est que justement c'était un projet qui tirait les gens vers le haut. Et en plus, les gens se battent pour ce projet. C'est-à-dire qu'ils ne subissent pas et ils n'attendent pas, on va dire, des interventions extérieures, la communauté internationale, ce que tu veux, etc. Ils se prennent en charge en prenant les armes, en étant maîtres de leur destin, parce que malheureusement, on n'a pas rien sans rien. Hein. C'est comme ça. Et en plus, c'est un projet qui tire vers le haut, avec lesquels on peut avoir des désaccords, évidemment, qu'il faudrait examiner dans les détails et voir en réalité, mais qui, dans tous les cas, propose un vivre ensemble, une solution de vivre ensemble qui tire, je le redis encore une fois, les gens vers le haut, avec une égalité, avec la fin des crimes d'honneur, notamment pour les femmes, avec une situation progressiste, avec un rapport notamment à la nature aussi qui est interrogé et qui a des réponses qui sont intéressantes. Et ça, c'est aussi le fait de la mutation du corps idéologique du principal animateur de la lutte de libération nationale des Kurdes, qui est le PKK. Alors, le PKK, ça frémit, je dis PKK, je redis encore une fois, le PKK, si vous voulez avoir un peu la cote au kebab, voilà. Vous dites PKK, alors le PKK, donc tu l'as dit, hein, 18, dans le fil aussi des révoltes qui avaient eu lieu et de la redécouverte du peuple kurde de lui-même à l'intérieur de la Turquie, puisque entre 68 et 81, c'est 10 ans, 15 ans d'agitation permanente dans la société kurde, dans la société turque, pardon, qui vont se retrouver confrontés à des coups d'État. Hein, ça n'a pas été, c'est pas des gens qui ont abandonné, c'est des gens qui ont été battus, vaincus par la force, avec la complicité évidemment des impérialistes occidentaux, puisque, répétons-le pour ceux qui ne savent pas, la Turquie est membre de l'OTAN. C'est la deuxième armée de l'OTAN. Hein. On règle aussi toujours comme ça des petits conflits, hein, puisque d'un côté, au Rojava là, et à Afrin, il y avait des Turcs qui pouvaient être soutenus par une petite coalition internationale, et de l'autre, la Russie, la Turquie ces mercenaires. Donc on peut faire la guerre comme ça entre membres de l'OTAN sans prendre vraiment de risques. Donc voilà, je vais terminer ce long tunnel et je vais dire donc cette mutation idéologique du PKK. Aujourd'hui, on sait que depuis 2001, c'est ça, le PKK est noté sur la liste d'organisations terroristes de l'Union européenne. Il y a de nombreux militants assimilés au PKK ou qui se revendiquent comme du PKK, qui sont en prison en Europe et aussi en France. Et il y a une répression quand même assez farouche. C'est pareil, elle est modulée, elle est modulable. Ça dépend quand on veut faire de la politique intérieure ou pas. Puisque aujourd'hui, il y a une manifestation à Strasbourg, mais il y en a eu une la semaine dernière où il y a eu des arrestations. Alors,
oui, notamment sur Paris. Ouais, c'est vrai.
Ouais. Moi, j'ai souvenir aussi qu'on s'était fait cogner dessus quand on avait fait les manifestations pour la vérité sur le meurtre des trois militantes kurdes à Paris, il y a déjà de ça 4 ans, quelque chose comme ça, où il n'y a toujours pas eu de déclassification et de réponse de la part de l'État français. Alors on va essayer d'un petit peu de remettre de l'ordre dans tout ça. Il y a une répression spécifique, on va parler de la France puisqu'on est en France, mais en général en Europe, il y a une répression spécifique quand même de l'État français sur le mouvement kurde en France, et ça prend quelle forme déjà?
Ça prend la forme d'une grosse hypocrisie.
Oui, je crois. Oui.
Ça prend la forme d'une grosse hypocrisie. Aujourd'hui, France, terre d'asile. Ok, très bien. On a des militants, des sympathisants, des détenus, ou simplement des personnes lambda, comme vous et moi, qui ont des opinions, qui sont chassés de chez eux, qui viennent prendre refuge en France, et on leur accorde à ces gens-là un titre d'asile politique. C'est très raccourci, c'est très caricatural, mais c'est ça. Et aujourd'hui, sous prétexte, parce qu'encore une fois, la France, elle n'a aucun intérêt à aller arrêter ces gens-là. Elle n'a aucun intérêt à arrêter ces gens-là. Puisque c'est la France elle-même qui a régularisé ces personnes-là en tant que demandeurs d'asile, en leur donnant le statut, justement, de réfugiés politiques. Pour des raisons externes à la France, pour des raisons certainement économiques, pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, mais on vient arrêter ces gens-là justement pour, en disant que vous faites partie d'une organisation terroriste. Oui, mais la personne que vous avez arrêtée jeudi dernier, sa demande d'asile, elle a été faite après 2001. Sa demande d'asile a été faite après 2001. Après 2001, le PKK était déjà considéré comme terroriste. Dans ce cas-là, pourquoi lui accorder ce titre de réfugié politique ? Vous l'arrêtez, vous, dernièrement, c'était il y a 2 ans de ça, vous l'année dernière, pardonnez-moi, vous le condamnez, vous l'inscrivez, une inscription au Fijet, c'est encore une nouvelle...
Fichier S,
ouais, ça. Non, c'est même pas fichier S, c'est le Fijet. Ouais. Le fichier S, c'est quand tu es suivi. Le Fijet, c'est quand tu es condamné pour terrorisme.
D'accord.
Donc tu es fiché dans un registre de terroristes, au même titre que Daesh, par exemple. Alors vous imaginez, on vient, on trie et on fiche Daesh, mais on fiche également celui qui combat Daesh. Vous voyez un peu l'hypocrisie du système.
En lui ayant auparavant accordé le statut d'asile.
Bien évidemment. Et on arrête ces personnes-là bien souvent, en France mais partout en Europe, à la veille, et on revient toujours au même point, à la veille de la venue d'Erdogan. On en revient toujours au même point.
Bah, c'est des otages, quoi. Mais
la gravité de la chose, ça veut dire que la France n'est pas capable de gérer ses affaires intérieures.
Ouais.
Vous imaginez ? Ça veut dire qu'Erdogan a la main mise sur les affaires intérieures de la France. Ça veut dire qu'Erdogan, il fait faire ce qu'il veut, au final. Il fait faire ce qu'il veut. Et c'est dû à quoi ? C'est dû à quoi ? Qu'est-ce qu'on a promis ? Les Français sont devenus, je crois, j'ai cru lire quelque chose comme ça ces derniers jours, troisième pays revendeur d'armes.
Ouais.
C'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Troisième pays revendeur d'armes.
Dans le monde, ouais.
Erdogan, il y est pas, il doit pas y être étranger à tout ça.
Ah bah certainement. Oui, hein.
Il doit pas y être étranger à tout ça. Et vu tout ce qui se passe sur les Kurdes, avec les accords d'Idlib qu'il y a eu la semaine dernière, accords après lesquels, justement, il y a eu cette nouvelle tentative d'invasion, notamment sur la région de Kobané, que les Kurdes ont défendu avec leur vie, avec leur sang. Je pense notamment à Arin Mirkan qui a mené une attaque suicide pour repousser. Et l'armée turque, je dis volontairement l'armée turque et non pas Daesh. Pourquoi ? Aujourd'hui Daesh, ce que tout le monde appelle comme Daesh, ok, c'est un groupuscule qui est né de je ne sais où, on ne sait comment, peu importe. Mais qui les a armés ? Qui les a soignés ? Qui les a hébergés ? Aujourd'hui, tout ça nous redirige vers la même adresse, la Turquie. Aujourd'hui, il n'y a qu'à aller se balader dans certains quartiers de Gaziantep, c'est une ville frontalière à la Syrie. Il n'y a qu'à aller se balader. Vous savez, j'ai un membre de ma famille qui était à Gaziantep le jour des attentats du 13 novembre. Et cette personne m'a appelé ce soir-là en disant « Tu me croiras jamais, il y a un défilé de voitures avec des drapeaux noirs en plein Gaziantep. »
D'accord.
Alors il arrive un moment, faut prendre position et faut choisir pour qui on est ou pour qui on n'est pas.
Bah, de toute façon, tu l'as dit, les témoignages des djihadistes qui sont revenus en France ou qui sont partis, ou les reportages qu'ils peuvent faire, démontrent que il y avait des hôtels à Istanbul qui étaient prêts et que l'accueil, oui, si ce n'est l'assistance, on sait pas, on n'est pas dans les petits papiers, mais en tous les cas, largement une tolérance. Et on les emmerdait pas, quoi, pour être tout à fait clair. Donc, il nous reste 5 minutes. On va rappeler encore une fois vendredi soir, on aura l'occasion de plus longtemps développer ça et puis de présenter aussi certainement le combat des Kurdes, l'histoire, etc. De venir aussi sur une campagne qui a lieu depuis bientôt quelques mois maintenant, qui vise à attirer l'attention sur le sort d'Abdul Öcalan, qui est donc un des fondateurs du PKK et qui est emprisonné sur une île prison
depuis 99
et dont malheureusement les nouvelles sont très très pointillé, surtout par rapport aux avocats, quoi. Même si de temps en temps il y a des déclarations qui sont sorties de manière manuscrite par les avocats.
Ça fait 8 mois plus rien du tout. Il y a l'isolement total. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dénonce aussi, parce que tout ce système idyllique qu'on a pu voir à travers le Rojava, tout ça émane d'Abdoulaye Öcalan. Tout ça, c'est la vision des choses d'Abdoulaye Öcalan. Et tout à l'heure, Denis en a très bien parlé, avec notamment son communalisme libertaire. Tout ça, c'est sa vision des choses. Et il n'y a qu'à se balader au Rojava ou simplement regarder le reportage pour voir que son portrait est arboré partout. Aujourd'hui, Abdoulaye Öcalan, c'est vraiment un leader, c'est vraiment le leader rassembleur au sein du peuple kurde. Et aujourd'hui, ça fait plus de 8 mois qu'il n'y a aucune nouvelle.
Aucune nouvelle.
Ses co-détenus, même ses co-détenus sont à l'isolement total, justement pour éviter qu'il puisse y avoir quelconque nouvelle. D'ailleurs, à ce sujet, une grève de la faim commence aujourd'hui à Strasbourg. Justement pour dénoncer cela. Mais bien évidemment, c'est des manifestations qui sont interdites par la France, naturellement, à travers les promesses qu'on a dû faire encore à Erdogan. Mais malgré tout, les camarades ne se laisseront pas faire et continueront leur lutte jusqu'au bout.
L'objectif, c'est quoi? D'interpeller la communauté internationale, la communauté européenne?
Le Conseil pour la prévention de la torture.
D'accord, le CPT?
Oui, ouais, exactement. Okay. Le but, c'est de les interpeller, d'envoyer un groupe pour aller justement, voilà, ouais, les observateurs pour aller voir Öcalan.
D'accord.
Allez, pour conclure, donc vendredi prochain à Reims, hein, faut-il dire, c'est attaqueux exactement.
Il y a des communautés et des organisations kurdes à Toulouse également, à Marseille, Montpellier, je sais pas, mais en tous les cas, voilà, à Toulouse, il y a une grosse communauté kurde.
Donc c'est le 16 novembre, donc à 20h, dans une salle Alliance réception, donc à Tinqueux. Alors pour ceux qui connaissent pas bien Tinqueux, c'est à côté du Color Ball.
C'est le bowling.
Le bowling. C'est à côté aussi de quelque chose qui est mieux connu, le Cabaret K.
C'est anciennement Harley Davidson.
Ouais, voilà. D'accord, carrément. Super. Est-ce qu'il y aura encore des motos?
On s'arrangera.
Très bien. Alors, vous voyez, par exemple, oui. Alain, qu'est-ce que tu veux dire?
Je voudrais donner deux adresses. La page Facebook collectif Afrin Reims, donc Afrin A. F-R-I-N, ça c'est sur Facebook, et puis la boîte mail, tout en minuscule, collectifafrinreims@gmail.com.
D'accord, de toute façon on les rappellera et puis tout est disponible. Il y a il y aura dans cette soirée des personnalités qui viendront nous parler du mouvement kurde, de ce qui se passe, de la campagne, enfin de tout ça, de l'actualité. Il y aura également la projection d'images avec, tu me le disais tout à l'heure, des témoignages de nombreux internationalistes qui sont venus rejoindre les unités de protection du peuple, les YPG.
Et les YPJ.
Et les YPJ, les unités de protection de la femme.
Exactement.
Et leur motivation, etc. Parce que ça, c'est un phénomène dont on n'a pas parlé, mais tu l'as souligné quand même. L'engouement, en tous les cas l'intérêt qu'il y a pu avoir pour cette lutte du peuple kurde au Rojava, intérêt que nous partageons et que nous aurons certainement le plaisir de revenir sur cette question. Merci à tous les deux.
Spas.
Ah, merci.
Merci.
Et à vendredi soir.
Spas. Chef Bosch, comme on dit en kurde.
Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, ce que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'était donc Grégor, chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.